Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 6 novembre 2025. Hier matin, on ne parlait que de Michael Burry et du fait qu'il s'était mis short sur l'IA. La baisse de la séance de mardi et le bain de sang sur certaines valeurs tech étaient uniquement basés sur le fait que le visionnaire qui avait vu les subprimes arriver en remettait une couche, mais cette fois sur l'IA. Et puis ce matin, plus rien. Exit Michael Burry, plus un mot sur l'IA, il a disparu des écrans radars et en l'espace de moins de 12 heures, nous sommes passés des stratégies des hedge funds à la narration macroéconomique à deux balles sur les chiffres de l'emploi ADP et aux décisions à venir de la Cour suprême sur les droits de douane de Trump. Il faut suivre et être attentif. Hier, Wall Street était donc en mode presque euphorique après avoir vécu un mardi compliqué sur l'intelligence artificielle suite aux commentaires de Michael Burry, mais en ce mercredi, tout était différent, puisqu'en l'espace d'un chiffre économique et de quelques doutes émis par la Cour suprême qui se prépare au combat du siècle contre le président Trump, les intervenants ont effacé leur mémoire de poisson rouge pour passer à autre chose. Le Nasdaq reprenait 1,1%, le S&P 0,8%, le Dow Jones 0,6%, bref, tout le monde était dans le vert et tout allait soudainement beaucoup mieux, même si les secteurs qui s'étaient fait défoncer la veille n'ont pas encore tout récupéré. Nvidia était même encore en baisse hier, c'était d'ailleurs assez rare pour être signalé, et pour faire simple, le marché s'est souvenu qu'il préférait quand même monter que réfléchir, et si on lui présentait les bons arguments, il n'allait pas se faire prier. Le S&P 500 encore une fois passé sa journée au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours, et ça fait 131 jours qu'il y est, ça n'était plus arrivé depuis 2007, époque où il avait tenu 149 jours avant de s'enfoncer dans les gorges de l'enfer et du subprime. La question que l'on peut se poser est donc, mais pourquoi cette soudaine bonne humeur hier, alors que l'ensemble du marché et des experts en bear market et en crash boursier étaient en PLS il y a encore 24 heures ? Eh bien, tout simplement parce que les chiffres de l'emploi se sont sortis meilleurs que les attentes. Oui, c'est génial ! L'emploi repart, l'Amérique engage à tour de bras, et ça rigole dans les bureaux de chômage. Il y a tellement plus personne qui va se présenter là-bas qu'ils sont en train de réfléchir à transformer les bureaux en fitness ou en McDonald's. L'Amérique frise le plein emploi et le plan Trump fonctionne. Bon d'accord, j'exagère un poil parce que je ne peux m'empêcher de me souvenir que les chiffres de l'emploi ADP n'intéressent généralement personne et que souvent, peu importe le ratage entre le chiffre officiel et les attentes des économistes, le marché s'en fout comme de l'an 40. Sauf que là, c'était pas pareil parce que les NFP ne seront pas là vendredi à cause du shutdown et que faute de grive, on mange des merles. Donc le rapport ADP annonce 42 000 postes créés en octobre, mieux que les 32 000 attendus. Rien de spectaculaire, vous en conviendrez. Surtout qu'en octobre, Amazon a viré 30 000 personnes qui ne sont pas encore entrées dans les chiffres, mais c'était largement suffisant pour relancer la narration classique. Le marché du travail ralentit, mais pas trop. Donc la Fed ne sera pas trop sous pression. Il y a même des gars qui pensaient qu'à cause de ce chiffre, Powell peut calmer ses angoisses et devrait pouvoir conserver les taux là où ils sont lors des deux prochaines réunions. N'est-ce point formidable ? Alors bon, je ne vais pas dire du mal de tout ça, mais disons que si on creuse deux minutes sur les chiffres précédents du même ADP, on observe que chaque fois que ces chiffres ont été publiés en dessous des attentes, c'était bien plus violent. Et que lorsque nous sommes meilleurs que les attentes, c'est minime. Si on regarde les mêmes chiffres depuis le début de l'année, les mois de destruction de l'emploi sont nettement plus brutales, ce qui aurait tendance à vouloir dire deux choses. La première, c'est que la qualité de ces publications est à peu près aussi bonne que l'analyse de l'emploi basée sur l'interpolation entre la culture des huîtres dans le bassin d'Arcachon et le nombre de ministres français qui ont des casseroles au cul, et l'autre, c'est que ça reflète un marché du travail qui semble fragile. Les entreprises n'embauchent pas vraiment, au-delà des attentes, de façon robuste, mais peuvent largement faire pire. Mais peu importe, comme on n'a pas de NFP, on ne peut pas comparer, on ne peut pas tirer de plan sur la comète de l'emploi, il ne nous reste plus qu'à nous contenter de trouver ça cool, parce que c'était mieux que les attentes. Ces chiffres ont, en tous les cas, suffi pour effacer la peur du grand méchant Michael Burry. L'ISM des services, lui, montrait un secteur qui repart, des prix qui regonflent un peu, et un marché du travail plus faible, ce qui paradoxalement rassure tout le monde. Donc si je résume tout ce merdier de chiffres économiques, l'emploi ADP va mieux, donc pas besoin de se précipiter pour baisser les taux, vu que l'économie va bien. D'ailleurs, l'ISM le prouve, mais par contre, il prouve aussi que l'emploi est faible et visiblement pas tout à fait d'accord avec l'ADP. Donc Powell peut baisser les taux en décembre. ou pas. En résumé, et pour essayer de faire simple, les chiffres économiques nous montrent absolument tout et son contraire, et nous, on prend le meilleur et on l'utilise pour acheter. Le monde merveilleux où les mauvaises nouvelles deviennent de bonnes nouvelles. Et de retour. Et pendant ce temps-là, pendant que l'on fait débat sur la macroéconomie, le cirque politique américain continue, le shutdown en est à son 36e jour. Un nouveau record, le Sénat ne vote rien, la Maison-Blanche s'énerve, les fonctionnaires bossent gratis depuis plus d'un mois. L'Amérique dans toute sa splendeur, la FAA annonce que 10% du trafic aérien pourrait être supprimé parce que les contrôleurs n'ont plus trop envie de bosser gratos. Et côté justice, des tarifs douaniers, la Cour suprême s'est à nouveau penchée sur les tarifs de Trump. Les juges doutent sérieusement que le président ait le droit de taxer la planète entière sous prétexte d'urgence économique et donc... Si la Cour casse ses tarifs, Wall Street sabrera le champagne. Encore. Ce qui est assez fabuleux parce que lorsque Trump a annoncé ses intentions en avril, le marché s'est crashé puis s'est repris et aujourd'hui, malgré les tarifs, nous sommes au plus haut de tous les temps. Mais si les tarifs tombent, on va aller encore plus haut parce que l'inflation va baisser, que Powell va baisser les taux comme jamais. La magie de la psychologie boursière ne cessera jamais de me surprendre. Il semblerait donc que l'on peut attribuer une partie de la hausse d'hier aux doutes de la Cour suprême et à son combat contre Trump. Oui, le même Donald Trump qui, depuis son retour à la Maison-Blanche, a ressorti l'arme fatale du protectionnisme pour sauver l'Amérique des méchants chinois, des perfides européens et probablement des extraterrestres, sans oublier les terrifiants helvètes qui voulaient mettre l'économie américaine à genoux à coups de montre et de chocolat. Mais trêve de plaisanterie, aujourd'hui le problème est le suivant, plusieurs juges, y compris ceux qu'il a lui-même nommés, trouve que son usage de la loi d'urgence économique de 77, l'IEEPA, ressemble un peu à un sketch de Jimmy Fallon. Et pendant que la Cour suprême pose des questions gênantes, les marchés jubilent parce que si la loi de Trump saute, les droits de douane sautent aussi. Moins de tarifs, c'est plus de marge pour les entreprises, moins de pression sur l'inflation et potentiellement une Fed qui pourrait, au miracle, baisser les taux plus vite. Bref, les investisseurs se mettent à rêver dans un monde où Trump parle beaucoup mais ne taxe plus personne, sauf que rien n'est simple dans le pays de l'oncle Donald. Oui, parce que même si la Cour suprême lui met une monumentale claque juridique, Trump a encore tout un arsenal de vieilles lois poussiéreuses dans ses tiroirs. La section 301, la section 232, la section 122, la section 338. On dirait presque les épisodes d'une série Netflix intitulée « Tarif Forever ». Autrement dit, le président peut encore continuer à taxer tout ce qu'il bouge. Il devra juste changer le prétexte légal. Et lui ne voit pas le problème, bien sûr. Dans une interview surréaliste sur Fox News, Trump a déclaré que si la Cour suprême annulait ses tarifs, ce serait dévastateur pour le pays. Il a même ajouté que sans lui, le monde entier serait en dépression. Oui, le monde entier, rien que ça. Il devrait donc assez logiquement choper le prix Nobel d'économie l'année prochaine. Dans sa logique, les tarifs ne sont pas une taxe, ce sont une bénédiction divine. Je l'ai fait pour le monde, dit-il, sauf que pendant qu'il prêche, les entreprises américaines, elles, comptent les dégâts. Des milliers de PME étranglés par des coûts d'importation absurdes, des conteneurs bloqués en Inde parce que les droits de douane coûtent plus cher que les produits qu'ils contiennent, et des patrons qui licencient à tour de bras. Une entrepreneuse californienne raconte qu'elle a dû virer 7 de ses 12 employés et augmenter 2 fois ses prix juste pour survivre. Mais bon. Selon Trump, tout ça, c'est pour le bien du monde. Côté macro, c'est aussi le flou artistique. Si la Cour suprême valide l'IEEPA, plus de 100 milliards de dollars de droits de douane pourraient être remboursés. De quoi faire hurler le Trésor américain, qui s'est habitué à encaisser la manne tarifaire pour boucler un déficit budgétaire toujours aussi abyssal. Et s'il faut rembourser tout ce beau monde... On risque d'avoir un joli trou dans la caisse. Aujourd'hui, la probabilité que la Cour suprême aille dans le sens de Trump est tombée à 27%. Et tout ce merdier fait plaisir aux marchés qui ont trouvé un bon prétexte pour ne plus parler des shorts de Michael Burry. Dans le sillage de Wall Street, les marchés asiatiques ont retrouvé le sourire. Assez logiquement, après la grosse claque de la veille, les investisseurs ont décidé que finalement, les valeurs tech n'étaient peut-être pas si surévaluées que ça. Résultat, le Nikkei reprend 1,5% et la Chine suit le mouvement avec une hausse de 0,9%. À Hong Kong, le Hang Seng grimpait de 1,6% tiré par les semi-conducteurs et l'IA. Son indice tech s'envole même de plus de 2%, notamment grâce à une rumeur made in Reuters, selon laquelle Pékin interdirait les puces d'IA étrangères dans les data centers publics. Une bonne nouvelle pour les fabricants chinois, moins pour Nvidia. En Corée du Sud, le Kospi rebondit de 1,3% après un plongeon de près de 6% la veille. Bref, tout le monde efface ses pertes d'hier comme si de rien n'était. Les analystes appellent ça une correction technique après une hausse prolongée. En français, les marchés ont paniqué pour rien et ils recommencent à acheter les mêmes trucs qu'ils ont vendus hier. Les cours du brut repartent à la baisse après un rapport de l'EIA montrant une hausse de 5,2 millions de barils dans les stocks américains, dopés par les importations. Résultat, le WTI perdait 1,2% à 59,83 et le Brent 1,3% à 63,62. Les cuves se remplissent, les prix se vident, l'or est à 3 994 $, le Bitcoin à 103 200 et le rendement du 10 ans est à 4,14. Côté news et chiffres de la veille, on va retenir quelques noms, à commencer par le roi du burger. McDonald's a fait un trimestre moyen, mais ça n'a pas empêché l'action de grimper 2%. Le bénéfice est un peu en dessous des attentes, les ventes un peu justes, mais les restos tournent mieux qu'avant, plus 3,6% à magasins comparables, surtout grâce aux États-Unis, l'Allemagne et l'Australie. Le seul problème, c'est qu'il y a moins de clients avec une baisse de 3,5% de fréquentation, mais ils dépensent plus. Mais à Wall Street, tant que le ketchup coule à flot, tout va bien. Robin Hood a sorti un chiffre trimestre, a sorti un trimestre canon. Bénéfice net par action 0,61 $, mieux que les 0,54 attendus, et chiffre d'affaires doublé à 1,27 milliard. Du lourd, si on compare aux 637 millions de l'an dernier. Mais comme souvent, à Wall Street, quand tout va bien, le titre recule quand même de 2% after close. Prise de profit, il paraît. AppLovin a sorti un trimestre XXL, bénéfice par action 2,45, bien au-dessus de l'an dernier, et un poil meilleur que les attentes. Le chiffre d'affaires explose à 1,41 milliard contre 835 millions un an plus tôt. La machine tourne à plein régime, le titre prenait 6% hier soir. Qualcomm a fait exactement ce que le marché adore, battre les attentes et annoncer encore mieux pour le trimestre suivant. Le groupe vise 12,2 milliards de revenus et 3,40 de bénéfices ajustés, largement au-dessus du consensus. Le seul caillou dans la chaussure, c'est d'énormes charges fiscales de 5,7 milliards liées à la réforme fiscale américaine qui plombe le résultat net, perte de 3,12 milliards. Mais derrière, Qualcomm récupère un taux d'impôt stable à 13-14%, un cadeau à long terme. Alors pourquoi l'action perd 3% après la clôture? C'est assez simple. Wall Street voulait un feu d'artifice et pas juste d'excellents chiffres. Et puis, Arm Holding a encore frappé, prévision bien au-dessus des attentes, un trimestre à plus 34% de croissance et un bénéfice qui dépasse les attentes. Résultat, le titre bondit de plus de 6% en after hours. Tout montre redevance, licence, smartphone, data center, automobile. L'IA tire la demande et l'efficacité énergétique des architectures ARM devient l'argument qui tue. Et derrière les bons chiffres, un virage stratégique. ARM ne veut plus seulement fournir l'architecture, mais elle commence à fabriquer ses propres puces complètes. Un changement de ligne à la hauteur de son écosystème à 200 milliards. Et puis, on terminera par Snap. Côté chiffres, Snap réduit la casse. Perte nette divisée à 6 cents par action. Les analystes attendaient 12. Le chiffre d'affaires grimpe de 10% au-dessus des attentes. Et les utilisateurs montent à 943 millions, plus 7%. Mais Snap a allumé un vrai feu d'artifice en after close. Et c'est pas à cause de ces chiffres. Plus 20% après l'annonce d'un partenariat avec Perplexity, leur moteur de recherche IA sera directement intégré dans Snapchat début 2026. Et vu que la boîte revendique près d'un milliard d'utilisateurs, ça change légèrement la donne. En résumé, moins de pertes, plus d'utilisateurs, un gros partenariat IA et surtout un gros partenariat IA et tout va mieux. Pour ce qui est des chiffres économiques, il y aura la production industrielle en Allemagne et puis plus rien. Pour les chiffres du trimestre, c'est assez calme. Pas de grands ou de gros noms. On va tranquillement aller en direction de la fin de la semaine. Et le prochain objectif sérieux, ça sera bien sûr Nvidia, mais c'est dans longtemps. La décision des taux de la Banque d'Angleterre tombera à la mi-journée et c'est le principal événement attendu pour le moment. Pour le reste, shutdown oblige, on se contentera de compter les avions dans le ciel pour se rendre compte que c'est pas pareil parce que c'est différent. Au final, rien ne change, on panique le mardi, on jubile le mercredi, et on fera probablement l'inverse demain. Les investisseurs ont la mémoire d'un bulot sous Xanax, la macro raconte n'importe quoi, et on suppose ce que va faire la Fed sans aucune preuve, mais noyé sous les « il pourrait » et autres éventuellement peut-être. Trump menace la planète à coups de tarifs, la Cour suprême menace Trump sur ses tarifs, et Trump menace la Cour suprême, et dans le doute, Wall Street part déjà acheter le champagne. Pendant ce temps, les entreprises publient tout et son contraire, mais tant qu'il y a IA dans le communiqué, tout va bien. En résumé, le marché est incohérent, imprévisible et incroyablement content de lui. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, un excellent café, et je vous dis déjà à demain pour la suite des épisodes du monde merveilleux de la finance.